Vous écoutez France Culture.
Réplique, les aléas du principe de précaution avec François Ewald et Olivier Godard. Mars 2009, un nouveau virus de la grippe apparaît au Mexique et aux États-Unis. Il est baptisé AH1N1. Juin 2009, l'Organisation mondiale de la santé décide de passer à la phase 6, l'alerte maximale en raison de l'existence d'une pandémie mondiale. Juillet 2009, la France s'engage dans l'achat de près de 100 millions de doses de vaccins. Octobre 2009, début de la campagne de vaccination en France. Février 2010, devant le fiasco de cette campagne et devant ce qui apparaît de plus en plus comme une surestimation du risque, l'Assemblée nationale décide de créer une commission d'enquête parlementaire. Nous en sommes là. Et je demanderai pour commencer à mes deux invités, François Ewald, titulaire de la chaire d'assurance du Conservatoire national des arts et métiers, et Olivier Godard, directeur de recherche en économie au CNRS, quel jugement ils portent sur cet épisode. La peur a-t-elle été mauvaise conseillère, ou fallait-il, comme l'affirme encore la ministre de la Santé Roselyne Bachelot, pratiquer le principe de précaution? François Ewald.
Je ne suis pas sûr qu'il faille parler de peur. Je crois que c'est un épisode qui est intéressant pour beaucoup de raisons. La première, si on parle du principe de précaution, il est déjà dans l'actualité comme un motif de mise en cause du principe. Je crois que nous sommes à un moment où on peut constater, maintenant il y a beaucoup de mouvements, il y a un mouvement parlementaire, pour dire finalement ce principe est plus compliqué qu'on ne pense, peut-être qu'il faut le redéfinir, peut-être même revenir sur sa constitutionnalisation. Alors, dans le cadre de Mme Bachelot, est-ce qu'on peut lui reprocher d'avoir mis en place un dispositif de précaution au moment où elle le fait? Je ne le pense pas. Simplement, Mme Bachelot est totalement dépendante de l'information qu'on lui donne. Cette information vient de l'OMS. Elle donne une certaine nature à la menace et, par précaution, les informations sont considérablement amplifiées, c'est-à-dire qu'on envisage le pire et pour ça, donc, les mesures que vous avez décrites en termes de vaccination. Et aujourd'hui, on apprend que les informations, que l'expertise de l'OMS était peut-être liée à des experts qui étaient liés à ceux-mêmes qui fabriquaient les vaccins. Alors, cet épisode-là, c'est un des aspects dans les aléas du principe de précaution qui, je pense, est le plus préoccupant. Ce n'est pas tellement le fait que la campagne de vaccination n'ait pas été suivie par les Français, c'est le fait que, une fois de plus, le principe de précaution ou son application ici va aboutir à une défiance supplémentaire. C'est-à-dire qu'en fait, que le dispositif qui le met en œuvre, qui le déclenche, est un dispositif qui ne serait pas fiable. Il y a un deuxième aspect. C'est est-ce que le principe de précaution permet, comme sa formulation l'indique, des mesures proportionnées? Là, on a une nouvelle affaire où, en fait, on a affaire à une disproportion. Et je crois que l'épisode de Gentilini-Bernard Debré est extrêmement intéressant.
C'est quoi cet épisode?
C'est qu'à un moment, je crois que c'est au mois de septembre, octobre, deux professeurs de médecine français, Gentilini, qui est un grand professeur spécialiste des maladies infectieuses, et puis Bernard Debré, qui est plutôt urologue, je crois, qu'autre chose, disent « c'est une grippette ». C'est-à-dire que se pose un deuxième aspect de la question, qui est « est-ce que le principe de précaution permet d'avoir le bon jugement ?» Car c'est bien de ça dont il est question. On est dans une situation d'incertitude, et comment avoir le bon jugement, la bonne appréciation? Alors, on a tout un appareil, OMS, experts du ministère, etc., qui développe tout un truc très compliqué et qui finalement ne correspond peut-être pas au bon jugement que deux médecins, à partir de leur expérience, ont pu formuler. Mais évidemment, le jugement aujourd'hui, c'est facile puisqu'on est après coup, de dire qu'ils ont bien jugé. Mais en fait, c'est eux qui ont eu le bon jugement. Je crois que le dernier élément pour moi, et qui est très intéressant, c'est l'extraordinaire écart qu'on va constater entre la volonté par les pouvoirs publics d'assumer la situation par précaution et la réalité d'une situation qui finalement va complètement leur échapper pour donner lieu à des mouvements qu'on pourrait dire de panique, c'est-à-dire où la décision de se vacciner ou de ne pas se vacciner n'a pas du tout été prise en fonction, en quelque sorte, des invitations gouvernementales, mais en fonction d'attitudes individuelles prises en fonction d'informations qui ont été dispersées quotidiennement. Un jour, on apprenait qu'il y a eu un mort jeune, alors ça a provoqué une ruée vers les gymnases, et puis finalement, ça s'est dispersé. Et de telle sorte que je trouve que c'est une dans les aléas, c'est qu'on a un principe qui est destiné en principe à concentrer et à donner du pouvoir aux autorités publiques pour pouvoir gérer des situations comme celle-là, et qui en réalité se résout dans une très grande fragilité et une très grande dispersion et disparition de l'autorité publique.
Olivier Gadart.
Je n'ai pas de désaccord sur tout ce que vient de dire François Ewald, naturellement. J'ai peut-être des nuances qui sont les suivantes. La première, c'est que je m'interroge de savoir si la grippe A était une circonstance dans laquelle le principe de précaution avait à s'appliquer. Le principe de précaution a été inventé pour les situations d'incertitude scientifique, pas pour les situations d'aléas. C'est-à-dire l'incertitude scientifique, c'est quand on ne sait pas exactement si le danger existe vraiment, on ne sait pas s'il existe, dans certains cas, avec quelle probabilité il risque de se manifester sous la forme d'un dommage. Et là, on avait un virus identifié, on lui a même donné un nom. On sait quel genre de pathologie il provoquait, la grippe. La seule chose qu'on ne savait pas, c'était l'ampleur de sa dissémination. Après, les problèmes essentiels qui ont été, c'était des problèmes d'organisation, notamment le fait que le ministère de l'Intérieur a pris le relais du ministère de la Santé dans l'organisation de la vaccination et qu'il y avait un arrière-plan de contentieux entre le milieu médical et son ministère de tutelle. Qu'il y a eu la controverse sur la contribution de la médecine privée ou pas à la vaccination. Et ça a beaucoup, pourri l'atmosphère, l'ambiance générale sur ce programme de vaccination. Donc, d'abord, je ne suis pas certain qu'il s'agissait vraiment d'une application du principe de précaution.
Pourtant, enfin, le mot a été utilisé, d'une part, et d'autre part, s'il y avait une incertitude sur, en effet, l'ampleur de l'épidémie, au nom de ce qu'on croyait être le principe de précaution, on a choisi l'hypothèse la plus pessimiste.
Alors, ça, ce serait le bon, deuxième
pour
commentaire.
Pour se protéger, en effet, et parce qu'il est vrai que l'opinion publique, s'il y avait eu une épidémie grave et si le gouvernement n'avait pas agi ainsi, se serait retourné contre lui et ça aurait pu avoir, on pense aux sang contaminés, des retombées judiciaires.
Alors, c'est effectivement la crainte des retombées judiciaires. Mais même dans l'affaire du sang contaminé, le principe de précaution n'a jamais été mobilisé dans ses conséquences pénales. Il a toujours été contourné et les condamnations qui se sont produites ont toujours porté sur des périodes à partir du moment où l'information était certaine et n'ont pas été encore au stade de l'hypothèse. Donc même du point de vue juridique, il y a toujours confusion considérable sur les implications pénales du principe de précaution. Il n'en a aucune. Mais revenons, admettons que la grippe A puisse relever du principe de précaution. Que demandait le texte de référence de la Charte de l'environnement parmi d'autres, mais c'est le plus solennel que nous ayons. Il demandait est-ce qu'on fasse une évaluation du risque, que l'on établisse le caractère dommageable et le risque la gravité et le caractère irréversible du risque, et que l'on prenne ensuite des mesures qui soient proportionnées. J'observe que dans la manière de justifier le principe de précaution, certains interlocuteurs parlent de principe de précaution maximal, comme si le principe de précaution ne suffisait pas à lui tout seul. Et dans cet écart, je vois effectivement une, ce qu'on pourrait appeler une dérive ou une utilisation politique de cette notion qui est en situation de trahison même du principe, puisque l'écart à la norme de la proportionnalité devient la preuve de la sollicitude des pouvoirs publics vis-à-vis de l'opinion. C'est-à-dire, plus il s'écarte de ce qu'il faudrait faire selon la norme de la proportionnalité, plus ils ont l'impression de montrer à la population qu'ils s'occupent bien d'eux.
Et c'est ce qu'ils ont fait, à votre avis?
Alors, ça revient à prendre l'hypothèse du risque maximal, alors que l'idée de proportionnalité s'oppose manifestement à donner un poids excessif au scénario du pire, par définition.
On applique le principe de précaution de manière, si j'ose dire, trop précautionneuse, et ce faisant, on le trahit.
Absolument.
Et c'est ce qui s'est passé, à votre avis, avec Agrippa?
Alors, c'est ce qui s'est passé avec un modulo, c'est que le principe de précaution doit s'apprécier sans tomber dans l'illusion rétrospective qui consiste à juger après coup en fonction des résultats, alors qu'on peut avoir le résultat que nous avons. Ce qui importe, c'est de juger en fonction de l'état de l'information, comme François Eval le disait tout à l'heure, l'état d'information de la ministre en mars 2009 et puis la suite. Bon. Ce que le principe de précaution demande aussi, c'est qu'eux prennent des mesures provisoires et révisées en fonction de l'amélioration de l'information. Ce que la ministre n'a pas fait, et ce que lui ont reproché les deux professeurs éminents que vous avez cités. En mars, personne ne s'est opposé aux mesures qui ont été prises. Aucun médecin, pas même le professeur Debré. C'est au moment où on a pu voir comment cette épidémie se déroulait sur d'autres continents et montrer qu'elle était moins dangereuse que ce qu'on en croyait, qu'ils ont commencé à intervenir, mais que la ministre a maintenu le plan tel qu'elle l'avait conçu initialement. C'est-à-dire qu'elle n'a pas adapté son plan, alors que le principe de précaution demande une adaptation des mesures en fonction de l'amélioration de l'information. Donc si on voulait l'appliquer, même si à mon avis on peut douter de la pertinence de cette application, il aurait fallu l'appliquer mieux en fonction des repères qui sont donnés par le principe de précaution lui-même.
François Eval.
J'aime bien l'argumentation d'Olivier Godard, mais je crois qu'elle pose les questions qui m'intéressent. Les questions qui pourraient nous intéresser dans cette question du principe de précaution, qui sont des questions épistémologiques, en fait, qui sont les questions sur les manières de penser qui sont impliquées par ce principe. Alors, ce que l'argumentation d'Olivier Godard consiste à dire, en fait, dans l'affaire, il y avait deux principes de précaution, où en fait, elle n'a pas appliqué le principe de précaution. Donc, mais c'est un problème, c'est que dans les situations concrètes, finalement, où on reproche la manière dont on a appliqué le principe de précaution, les grands défenseurs du principe disent « Ah, mais ce n'est pas le principe qu'on a appliqué. En fait, on s'est trompé sur son interprétation. » De telle sorte qu'en réalité, finalement, on n'a jamais dû l'appliquer. En réalité, à chaque fois qu'on l'a appliqué, c'était par erreur. Deuxième aspect. Mais sur ce point-là, je ne suis pas sûr qu'on puisse trancher si facilement que le dit Olivier Godard. Pourquoi ? Parce que si on prend le texte de la Constitution, le texte de l'article 5 de la Charte de l'environnement, en fait, le principe de précaution figure deux fois. Il figure à la fois comme la description d'une procédure dans le cas d'une situation de précaution, d'une situation de dommage grave et irréversible dans le domaine de l'environnement. Et à ce moment-là, il y a une procédure décrite, donc mesures provisoires, recherches, mesures pour parer la réalisation du dommage. Mais cette procédure est dite une application du principe de précaution. De telle sorte que l'autorité publique, le gouvernant, peut penser qu'il y a une norme plus générale, plus abstraite, plus haute, qu'il doit appliquer, qu'il doit gouverner par précaution, qu'il doit gouverner dans cette atmosphère de précaution. Et de ce point de vue-là, on pourrait dire que la mise en scène, enfin l'argumentation proposée par Roselyne Bachelot correspond à cette vision-là, à cette présence d'une obligation de précaution faite au pouvoir public dans la Charte de l'environnement, obligation très abstraite. Donc, je ne suis pas sûr qu'on puisse trop faire la distinction. En réalité, le principe de précaution est une norme, c'est un peu ma thèse, et c'était ma thèse au moment, puisque j'ai participé à la rédaction de la Charte de l'environnement, c'était ma thèse d'hostilité à sa constitutionnalisation, c'était de dire, attention, ce principe va proliférer. Ce principe a une nature en quelque sorte proliférante, et c'est pas parce que vous allez le mettre dans un texte, et surtout si vous le mettez au niveau de la Constitution, que vous allez réduire sa prolifération. Au contraire, vous allez l'encourager. Et donc, d'une certaine manière, on récolte aujourd'hui cette prolifération qui est le fruit des mesures qu'on a prises, par précaution, par idéologie de précaution.
Ouais, j'ai un diagnostic tout à fait opposé sur ce point. D'abord, sur le fait que le texte de la charte, l'article 5, dise par application du principe de précaution, ne fait que constater que ce n'est pas le texte de la Constitution française qui l'a inventé. Le principe de précaution est dans le traité de Maastricht de 92. Il est dans le texte de la loi Barnier de 95. Le texte de la loi Barnier qui en donne une définition et qui reprend les mêmes idées que celles de la Charte de l'environnement. Ça veut dire que l'idée qu'il y aurait un écart entre son application au champ de l'environnement et sa définition qui pourrait être beaucoup plus à la fois forte dans son statut et indéfinie dans son contenu, me paraît pas tellement soutenable, personnellement.
C'est à la fois la réalité expérimentée, et cette réalité, on peut en trouver le germe dans la rédaction même du texte qui est très ambialificoté.
Alors, je vais le lire, le texte. Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertain en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution, à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin d'éviter la réalisation de dommages, ainsi qu'à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques encourus.
Voilà. Alors, le deuxième point, au-delà de cet aspect de champ de définition du principe de précaution, à savoir qu'il y en aurait un sans contenu, mais avec une forte prééminence, et donc soumis finalement au bon vouloir de l'interprétation, et puis un qui serait appliqué au champ de l'environnement, qui serait beaucoup plus borné, que je viens de discuter. Mon deuxième point porte sur les questions de l'application. Effectivement, je ne suis pas satisfait des conditions actuelles d'application du principe de précaution dans les différents dossiers dans lesquels il a été mobilisé par différents acteurs, y compris les acteurs publics. Ça a été le cas à propos des OGM. Dans le cas de cette grippe, je pense qu'il y avait moyen de faire mieux que ce qui a été fait si on avait souci de respecter l'esprit du principe de précaution, c'est-à-dire les repères précisément donnés dans le texte constitutionnel et dans une doctrine. Parce qu'on n'est pas au début du principe de précaution. Il a été, ça fait maintenant plus de 20 ans qu'on vit avec. Et il y a une doctrine qui s'est élaborée peu à peu et qui a été stabilisée en l'an 2000. Doctrine publique, relevant du droit communautaire, et validée par la résolution sur le principe de précaution du sommet de Nice. C'est-à-dire tous les chefs d'État et de gouvernement ont signé ce papier qui disent, en quelques pages, qu'est-ce que c'est que ce principe, comment ils vont l'interpréter, ce qu'il n'est pas, etc. Alors, qu'on s'en tienne à cette doctrine, et ensuite, on peut juger des applications pour savoir si elles sont conformes ou non, à la doctrine qu'on a établie.
Et vous pensez
manifestement, elles ne le sont pas, en France particulièrement.
En France, elles ne le sont pas.
Elles ne le sont pas.
Ni pour les OGM, dites-vous, ni pour...
C'est-à-dire qu'à chaque fois, ce qui s'est passé, c'est que les enjeux d'opinion publique l'ont emporté sur les enjeux de gestion des risques.
François Eval.
Je voudrais ici dire deux choses. La première, c'est que ce que Olivier Godard désigne comme des mauvaises applications, disons des dérives, pourrait-on dire, du principe de précaution, je crois que sont inscrites dans l'épistémologie même de la notion. Donc, c'est dans la notion elle-même qu'on doit trouver la source de sa sortie, en quelque sorte, de sa propre définition. D'une part, et d'autre part, je pense qu'on ne peut pas faire comme si ce principe pouvait exister en quelque sorte en soi sans les conditions sociologiques de son application. En fait, le principe de l'article 5, il n'est pas isolable de l'article 7 de la Charte de l'environnement, qui indique que dans le débat sur les mesures, sur l'évaluation et sur les mesures que prennent les autorités publiques, le citoyen doit être informé, ça c'est le minimum, mais aussi participer, c'est la formule de l'article 7, participer à la décision. C'est-à-dire qu'il est inscrit dans la notion même du principe que l'opinion a sa part, a son interprétation, et c'est d'ailleurs ce qu'on cherche, parce que ce qu'on cherche à travers le principe, c'est à ce que toutes les formes de valeurs, en quelque sorte, qui sont dans l'opinion, puissent trouver à s'exprimer. Donc je pense, si vous voulez, que Ces dérives, elles sont dans l'épistémologie, c'est dans la logique même du principe. Et on ne trouvera pas, et on ne peut difficilement trouver une application proportionnée du principe, parce que par principe, précisément, il oblige d'abord à donner une force, un poids extrêmement important à des éléments d'alerte qui sont d'abord extrêmement faibles. Et la précaution, précisément, consiste pour protéger une valeur environnementale ou sanitaire, à dire qu'on doit prendre en compte le plus petit élément, en quelque sorte, d'information, même extrêmement faible en termes probants, lui donner une très grande force, précisément dans le cas où ses conséquences pourraient être irréversibles et graves. Et donc, la logique de l'exagération ou de la disproportion, on peut considérer qu'elle est inscrite dans le principe.
Oui, je pense évidemment exactement l'inverse. Puisque moi, je m'en tiens aux repères qui sont explicitement donnés dans toutes les définitions de la doctrine du principe, qui demande, pour se distinguer de ce principe qui consiste à donner la valeur la plus élevée au risque le plus extrême et le plus improbable et le moins constitué, l'idée de proportionnalité, qu'on a ensuite déclinée en disant proportionnalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire prise en compte de la gravité possible des dommages, ça veut dire quels sont les coûts, ça veut dire quelle est la consistance du dossier scientifique à l'appui de l'hypothèse de risque. Et c'est dans la pondération de l'ensemble de ces éléments qu'on peut avoir un jugement raisonnable sur ce que c'est qu'une mesure proportionnée. Si on fait du principe de précaution l'origine de sa négation, évidemment, on arrive à dire à peu près tout et son contraire. Et je ne me risquerai certainement pas.
Alors, vous avez parlé d'une logique du principe de précaution, une logique qui tente à l'amplification, à l'exagération et aussi à la mobilisation toujours affective de l'opinion publique avec des alertes qui deviennent presque nécessairement, automatiquement maximales. Mais n'y a-t-il pas une autre raison d'être fondamentale, c'est-à-dire qui tient aussi aux désillusions du progrès. François Dagonier disait « Désormais, on instaure et suscite la nature, le faire se substitue à l'être. » Et on a parlé, en effet, de la création par l'homme d'une nouvelle genèse. C'est le grand espoir prométhéen. Le laboratoire créé, il ne contemple plus. Mais on se rend compte aujourd'hui que cette nouvelle genèse n'est pas une œuvre, que c'est un processus et que, précisément, l'homme est en quelque sorte en train de tâtonner dans un brouillard qu'il a créé lui-même, parce que ce processus échappe. Je citerai Valéry, « L'homme sait ce qu'il fait, mais il ne sait jamais ce que fait ce qu'il fait. » Il est devenu créateur parce que, excédé de n'être qu'une créature, mais créateur de quoi? Donc, je m'excuse de revenir à ces considérations peut-être très générales, mais il me semble que c'est dans ce climat, dans ce contexte, qu'on a essayé de formuler le principe de précaution, parce que, justement, vous disiez tout à l'heure, pourquoi la peur? Ben si, on a eu peur. L'homme a eu peur de ses propres productions. Oui, d'où l'expression de Hans Jonas, d'heuristique de la peur, et le principe de précaution est peut-être une retombée législative de cette heuristique de la peur. C'est quand même dans ce contexte très général que le principe de précaution trouve éventuellement sa nécessité, François Ewald.
Là, mais voyez le coup. Cette logique du principe de précaution, ce que j'appelle cette épistémologie, qui n'est pas effectivement norme, qui n'est pas essentiellement lié d'ailleurs au problème d'environnement. Ce qu'il faut que vous en mesurez, ce que vous pouvez en mesurer maintenant, c'est en analysant, en faisant son analytique, c'est quels sont ses coûts en termes d'éthique de la pensée. C'est ça qui m'intéresse. Et il me semble qu'au nom des idéaux que vous venez de rappeler sur le problème, sur le côté, comment dire, d'un pouvoir considéré comme excessif de l'homme par la technique, la volonté de lier ce pouvoir, etc., on a mobilisé un instrument dont les coûts, je dis, sur la pensée, sur l'éthique des sciences, est considérable, et les coûts politiques sont déjà considérables et risquent de l'être encore plus. Vous, Alain Finkielkraut, si je ne me trompe, vous êtes un grand défenseur de la démocratie, eh bien, les effets du principe de précaution sur la constitution de la démocratie, c'est-à-dire de jugement collectif, je pense, sont extrêmement importants dans la mesure où on constate qu'ils conduisent non pas du tout à la capacité d'agréger des opinions, de les transformer en des jugements raisonnables, mais au contraire à une dispersion et à une société complètement éclatée, hyper individualisée, où chacun se renferme sur son propre jugement, sur ses propres affects, en quelque sorte, et sans capacité de sommation, ce qui pose des problèmes extrêmement compliqués sur la démocratie. Alors, dans l'histoire de H1N1, qu'est-ce que j'ai dit, moi? Finalement, qu'est-ce qu'on a assisté? On a payé 1 milliard les vaccins qui n'ont pas été utilisés. Si Mme Bachelot n'avait pas mis les vaccins à disposition des gens, ils auraient râlé s'ils avaient dû les utiliser. Ben, qu'est-ce qu'on a payé? On a payé la liberté de l'individu moderne, tout simplement. Il a demandé au gouvernement...
L'erreur du gymnase, si on avait immédiatement confié la vaccination à des médecins libéraux, les choses se seraient passées sans doute beaucoup mieux. C'est ce que dit l'Académie de médecine.
Il semble qu'il y avait des choses, c'était assez compliqué à gérer. Bon, mais d'une certaine manière... Alors, je crois que ce qu'il faut réfléchir maintenant, au point où nous en sommes, c'est... Quelle est l'éthique de la pensée, l'éthique des sciences, l'éthique de l'argumentation scientifique qui est à l'œuvre dans ce principe? Et ceci est du point de vue du progrès, du point de vue moral, quelque chose, je crois, d'extrêmement important. Deuxièmement, quelles sont les conséquences politiques de la désagrégation d'une éthique de la pensée et d'une éthique des sciences que nous avions construite depuis déjà fort longtemps?
Alors, dans le tableau que vient de donner François Ewald, il me semble qu'il y a une confusion, une erreur d'attribution. C'est-à-dire qu'il attribue au principe de précaution un ensemble de transformations dans les représentations collectives et dans le fonctionnement de nos institutions auxquelles le principe de précaution n'est en fait qu'une réponse et se trouve pas à la source, naturellement. C'est pas le principe de précaution qui a inventé l'ambiguïté du progrès technique moderne qui a fait que nos sociétés, pour prendre le...
Mais moi, je ne me place pas sur ce terrain. Moi. C'est le terrain d'Alain Finkielkraut.
Oui, non, mais vous avez fait un commentaire repartant de ce point. Et il y a un mouvement de transformation de notre société vis-à-vis de la technique, vis-à-vis de la science. Beck parle de société du risque. Nous avons découvert que le risque ne venait pas seulement d'ailleurs de la nature, il venait aussi de nos propres productions et que nous étions dans une situation de décalage fort entre les conditions d'innovation d'un côté et les conditions de maîtrise de l'innovation de l'autre. C'est-à-dire que la maîtrise de l'innovation est toujours en retard sur l'innovation elle-même. Bon, face à ces situations et de défiance que ça a provoqué dans l'opinion et à juste titre, c'est-à-dire on ne donne plus dans la mythologie du progrès toujours bon et toujours positif. On demande à voir, l'opinion demande à voir. On a inventé quelque chose qui s'appelle le principe de précaution, qui donne les repères pour justement organiser comment on fait le filtre, la sélection là-dedans, tout cela. Et puis vous venez et vous nous dites, oui, dans ce grand mouvement, la responsabilité de tout cela, c'est le principe de précaution, et il nous emmène dans des aventures très graves pour l'esprit et pour la démocratie. Mais non, c'est l'évolution de la société qui actuellement porte atteinte aux conditions de la démocratie, parce que c'est devenu une démocratie de l'émotion et de l'opinion et non plus une démocratie de la raison. Mais ce n'est pas le principe de précaution qui l'a fait. Le principe de précaution était la réponse donnée pour trouver une expression, une forme de réponse dans l'ordre du raisonnable et non plus seulement dans le calculable qui était la logique scientifique pure au préalable avant. Donc le principe de précaution est peut-être emporté par le mouvement actuellement et n'a pas su... Ces conditions de mise en œuvre n'ont pas permis de résister au mouvement que vous indiquez. Mais ce n'est pas lui du tout qui était à l'origine de ce mouvement.
Non, je ne dis pas.
François Ewald.
Je ne dis pas qu'il est à l'origine du mouvement, mais je dis que je crois qu'on peut faire, on peut se demander si aujourd'hui on ne doit pas faire un bilan entre les fins poursuivies et l'instrument mobilisé. Et si finalement, vis-à-vis des fins qui sont bonnes, il ne faudrait pas changer l'instrument. Parce que l'instrument a une logique telle qu'en fait, il aboutit, il a des effets. D'abord, on ne reconnaît plus l'instrument lui-même, c'est ce que vous venez de dire. Et d'autre part, il est tout à fait inefficace pour atteindre la fin. Par contre, il permet d'obtenir d'autres objectifs, qui sont des objectifs d'affaiblissement des autorités publiques, qui sont des objectifs de dispersion sociale et qui sont des objectifs tels que ce qu'on s'aperçoit aujourd'hui, c'est que dans cet environnement, je veux bien vous accorder, il ne faut pas tout attribuer au principe de précaution, mais enfin c'est quand même tout ça dans son cadre. On a des débats, on assiste à deux, je vais prendre deux exemples. Le premier exemple, c'est l'exemple des téléphones mobiles. On a eu, au mois de février 2009, une décision d'une cour d'appel de Versailles, extrêmement intéressante, où le tribunal, les juges, donc d'une cour d'appel, Versailles, ce n'est pas une toute petite cour d'appel, va donner raison à un plaignant qui se plaint de troubles de voisinage en raison de la présence d'une antenne de téléphonie mobile. Il va se plaindre sur le principe que cette antenne donc crée un stress, crée une angoisse. Et qu'est-ce que dit le tribunal ? Dans la mesure même où le gouvernement a encadré l'installation de ces équipements par des procédures de précaution, c'est donc qu'il y a une incertitude, que cette incertitude légitime une angoisse, et que donc il est tout à fait normal que le plaignant en question soit angoissé. Et comme cette angoisse correspond à un trouble de santé, eh bien, il faut mettre fin à ce trouble et faire disparaître l'antenne. Vous voyez ici, dans les aléas du principe de précaution, on aboutit à une sorte d'utilisation du principe de précaution au carré, c'est-à-dire le fait qu'on soit placé dans une situation de précaution est susceptible de créer en soi un trouble pour les individus, que ces individus pourraient faire revendiquer leur créer un droit subjectif à faire disparaître un trouble et à faire disparaître en même temps, dans le cas en question, en fait, une politique publique d'équipement sur les téléphones mobiles. Et là, on voit comment on arrive à travers cette notion, ça c'est son aléa, si vous voulez, à avoir donné des droits subjectifs à faire disparaître un équipement public dont, par ailleurs, toutes les autorités constatent qu'elles ne représentent aucun risque.
Bon, alors j'aurais un mot à dire sur le téléphone portable. Mais
là aussi, c'est un cas tout à fait intéressant, mais dont je n'ai pas tout à fait la même lecture que François Ewald. Le tribunal a considéré qu'il y avait incertitude. Et ce n'est pas le principe de précaution qui a inventé l'incertitude. Le tribunal le déduit du fait que les autorités n'ont pas pu prouver l'absence de risque.
Ça, c'est bien la logique de précaution.
Non, justement. Le principe de précaution n'a jamais consisté à vouloir apporter la preuve de l'absence de risque. Donc, on est bien au cœur de notre sujet. Le fait qu'il y ait, par définition, la possibilité de prouver l'innocuité de quoi que ce soit est constitutif de la science, parce que la science n'est toujours limitée, la science n'est jamais définitive, n'est jamais achevée. Donc, aucun scientifique ne pourra dire définitivement sur quelque chose, je vous garantis, l'innocuité définitive et pour l'éternité de ceci ou de cela. Donc, c'est une argutie que de dire c'est le principe de précaution qui est à l'origine du jugement de la Cour d'appel de Versailles. Non, c'est l'interprétation très particulière de la notion d'incertitude par la Cour d'appel de Versailles qui assimile incertitude à certitude du risque et certitude du risque à trouble anormal de voisinage. Mais la Cour d'appel de Versailles n'a pas dit en application du principe de précaution.
C'est pas ce que j'ai dit non plus.
Ils appliquent la théorie du trouble anormal du voisinage, c'est-à-dire qu'ils ont contourné l'application du principe de précaution qui les aurait bien gênés.
Oui, mais alors, en même temps, on a le sentiment qu'avec le principe de précaution, aussi, la seule question qui se trouve posée, c'est celle du risque sanitaire. Et après tout, il y a d'autres risques. Ce que je constate, parce que vous avez parlé du mobile, alors je vais éventuellement sortir du sujet, mais bon, peut-être que je me sens un peu à l'étroit. Aujourd'hui, on se pose la question du téléphone portable dans les collèges et dans les lycées, François Ewald. Et le seul argument qu'on invoque pour interdire cet instrument maudit, c'est le risque sanitaire. On se retourne vers l'Académie de médecine, on espère que celle-ci invoquera le principe de précaution, quelque chose de cet ordre, alors que on pourrait tout de même utiliser d'autres arguments, s'inquiéter du monde, de ce que devient le monde, et pas simplement de ce que devient des risques qui pèsent sur la santé des gens. Alors, n'y a-t-il pas aussi le risque d'une réduction de la vie au processus vital, justement, à travers cette obsession, cette idolâtrie de la précaution.
C'est précisément ce, à quoi on en est arrivé. Et qui fait que je considère qu'aujourd'hui, on est dans l'après du principe de précaution, d'une certaine manière. Dans l'histoire des téléphones mobiles, après cette décision qui a considérablement, qui a stupéfait tout un tas de monde, le gouvernement, au lieu de laisser les procédures judiciaires se poursuivre, a immédiatement interrompu les choses et a constitué un Grenelle des antennes. Et là, il faut voir les argumentations qui sont utilisées. Elles sont, à nouveau, stupéfiantes. Les communiqués qui sortent du Grenelle commencent par dire, un, les normes utilisées en France, qui est la norme OMS, la norme de puissance des antennes, ne présentent aucun risque. C'est texto dans les textes. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas appliquer, non pas un principe de précaution, mais un nouveau principe, qu'on appelle principe d'attention. C'est-à-dire que, désormais, dans la décision publique, ce n'est plus l'argumentation scientifique sur l'analyse des risques qui serait pertinente, mais c'est une argumentation qui va prendre en compte d'autres régimes de valeurs, d'autres régimes d'argumentation que les risques de type sanitaire et environnementaux, sur lesquels, donc, il faudrait s'entendre. Mais vous voyez bien que ce qui s'est passé, dans ce moment des aléas du principe de précaution, c'est qu'on est arrivé, on en arrive, à l'idée que là où jusqu'alors il fallait se départager à partir d'une analyse des risques, désormais cette analyse devient seconde. Évidemment, s'il apparaissait que c'était dangereux, ça classerait l'affaire. Mais dans le cas où ça ne présente pas de danger, ce n'est pas une raison pour tenir compte d'autres régimes de valeurs sur lesquels il n'y a pas de commensurabilité. Et là, je reviens à nouveau à mon problème autour de la démocratie et de l'accord. Comment fait-on un accord à partir du moment où il n'y a plus rien, en quelque sorte, pour départager les opinions, où chacun peut faire valoir la sienne en toute souveraineté?
Oui, je pense que cette manière de déporter la question qui a été inventée à propos du Grenelle que vous mentionnez montre bien que le principe de précaution avait une vocation à gérer des risques et que le problème des pouvoirs publics n'est pas fondamentalement, dans ce cas précis, celui de gérer des risques, mais de gérer une situation dans laquelle il y a un certain nombre d'oppositions locales, de riverains, de voisins et d'associations, et que son problème, c'est de gérer donc un problème d'ordre public, et que pour ça, il applique les méthodes classiques de la négociation, qui est celle que propre au champ politique, avec ce principe d'attention. Mais alors, vous voyez bien qu'on ne peut pas attribuer au principe de précaution un peu tout, puisqu'on est allé chercher et inventer un autre principe.
Pourquoi si? Eh bien, parce que je pense que dans la logique et l'épistémologie de ce principe, il est arrivé, effectivement, dans son interprétation, et je comprends qu'Olivier Godard dise « je ne reconnais plus mon enfant », mais c'est pourtant la réalité, à ce que, dans la mesure où on a mis l'accent, non pas sur ce qu'on sait, mais sur ce qu'on ne sait pas de ce qu'on sait, sur un nouveau rapport à la connaissance, qui est que, à la fois les autorités et le public considèrent que la science est aussi importante parce qu'elle dit que parce qu'elle ne dit pas. Et que ce qui vraiment d'abord devrait compter dans la décision, c'est non pas ce que la science révèle, mais ce qu'elle cache à travers ce qu'elle révèle. J'utilise l'argument des phénoménologues, les fameuses Abschattung de Husserl, disant quand on voit un objet, on ne le voit jamais que sur un côté, et ce que le côté manifeste de l'objet, il le cache l'autre. Et pourtant, on en a. Eh bien, le rapport que nous avons à la science aujourd'hui, c'est pour ça que c'est un rapport de défiance. L'incertitude, ce n'est pas le problème de l'inconnu. L'incertitude, c'est le problème du degré de foi que je peux mettre dans la connaissance. Et à travers cette valorisation de l'incertitude qui accompagne le principe de précaution, eh bien, on a introduit cette valorisation de la défiance par rapport à ce qu'on sait. Il y a l'idée de la confiance par rapport à ce qu'on ne sait pas, qui fait que finalement, la connaissance scientifique se trouve dans le débat public et dans la décision publique en voie d'être disqualifiée.
Mais si défiance il y a, François Eval, c'est aussi à cause du lien savoir-pouvoir, connaissance-puissance. Nous ne savons pas où les pouvoirs de la science nous mènent. Mais je voudrais justement aborder là un thème où, me semble-t-il, et vous allez peut-être me détromper, le principe de précaution n'est pas très présent, alors que peut-être il devrait l'être, celui des nanotechnologies. C'était une décision du Grenelle de l'environnement que d'organiser un grand débat citoyen, comme on dit hélas, sur les nanotechnologies. Il a tourné court, il a tourné au fiasco, nous dit la presse, et on voit que donc les expérimentations vont continuer, alors que peut-être il y a des sujets d'inquiétude. Parce que les études sur la toxicologie et l'écotoxicologie des nanoparticules ne sont pas tout à fait suffisantes. Et puis, il y a des risques portant sur les libertés, justement, énoncés notamment par Alex Turk, président de la CNIL. Serons-nous capables de renoncer ou d'interdire des applications des nanotechnologies lorsque les systèmes d'observation et d'écoute deviendront invisibles? Comment serons-nous certains d'être seuls? Il faut vraiment y réfléchir, car cela serait irréversible. Y réfléchit-on? Je n'en suis pas sûr. Pourquoi? Parce que il y a de grandes perspectives médicales des nanotechnologies. Et là, j'en viens à la dernière chose que je souhaitais dire. C'est-à-dire, on critique la peur à la base du principe de précaution, mais à la base du refus du principe de précaution, il y a aussi une autre peur, celle qui précisément anime, habite, aiguillonne le progrès, la peur de la mort. Ce n'est pas le goût du risque qui pousse la modernité biomédicale à rectifier le corps humain en le rehaussant de prothèses, en le branchant sur ses ordinateurs. C'est le rêve d'une sécurité absolue. Ce rêve-là, il est à l'œuvre justement dans certains progrès inquiétants. Donc, la peur est en quelque sorte des deux côtés. Mais que peut-on dire justement du rapport entre nanotechnologie et principe de précaution, Olivier Godard?
Eh bien, il existe un... auprès du ministère de l'écologie et du développement durable, un comité de la prévention et de la précaution qui existe depuis une quinzaine d'années peut-être, qui remet des avis dont personne ne parle, ou très peu, et qui s'était saisi déjà il y a quelques années du problème des nanotechnologies en disant il est temps de se rendre compte que les propriétés de la matière à l'échelle du milliardième de mètre ne sont pas les mêmes et que donc on ne peut pas simplement dire on va faire une analyse chimique standard des substances pour connaître les risques. Il y a de nouveaux risques pour lesquels il faut une démarche spécifique qui relève du principe de précaution. Les pouvoirs publics à l'époque n'ont rien fait de particulier compte tenu de cet avis. On s'est réveillé après le Grenelle quand déjà les nanomatériaux sont déjà utilisés en masse dans de grands nombres de produits industriels, sans que l'on ait fait le dispositif d'accompagnement et de suivi que le principe de précaution recommande. Donc, c'est un cas typique où apparemment les pouvoirs publics français n'avaient pas appris la leçon. C'est-à-dire qu'il y avait d'un côté les champs qui relevaient du principe de précaution, le débat, etc., un peu récurrent. Les OGM comme point de fixation. Et puis on continuait comme avant pour le reste, sans avoir compris vraiment et assumé l'idée que le principe de précaution, ce n'était pas seulement pour faire joli dans la Constitution, mais que c'était vraiment un apport à la qualité de la décision publique.
Donc c'est un rendez-vous manqué.
Rendez-vous manqué jusqu'à présent.
François Eval.
Je ne comprenais pas bien, je comprends mieux les interventions d'Alain Finkielkraut dans notre débat. Il pose une question qui est très intéressante, mais la question est de savoir si les débats qu'il soulève sont susceptibles d'être tranchés par le principe de précaution, tel qu'il est défini par Olivier Godard. Et la question des nanotechnologies est au cœur du sujet. Pourquoi? Parce qu'il y a deux aspects dans les risques. En fait, le principe de précaution, il conduit dans sa pratique, en fait, à faire éclater la notion de risque. Il y a d'une part les risques relativement simples, un peu, disons, unilatéraux, du type sanitaire et environnementaux. Mais quand il a fallu, par exemple, débattre des OGM, on a dit ben, il faut mettre en balance tous les risques avec tous les avantages. Et donc, on a dit, mais l'alimentation dans le monde, mais la suffisance alimentaire, mais la qualité des aliments, etc. Donc, on a introduit dans les balances un éclatement de tous les aspects des risques en question. Dans les nanotechnologies, il y a l'aspect des risques dangereux, sanitaires, on vous met une puce dans le cerveau, qu'est-ce qui va lui arriver, quel va être son destin, etc. Mais il y a un autre aspect, c'est qu'effectivement, ces technologies ne sont pas simplement des technologies de la guérison, ce sont des technologies de la performance. C'était d'ailleurs le problème des OGM. C'est pour ça sans doute qu'il y a eu tant de cristallisation sur les OGM, c'est que la technique n'était pas simplement une maîtrise de la sélection des plantes, c'était aussi une transformation du vivant. Donc il y avait un problème de performance. Et là, effectivement, le débat sur les risques est-ce que c'est bien de lui dont il est question ? Et est-ce que c'est une, pour moi, les nanotechnologies nous font rentrer dans un univers où, effectivement, c'est plus la question des risques et des dangers qui est en cause, c'est des régimes de valeurs. Mais ceci, alors, je ne pense pas, est-ce qu'on peut traiter ça, ce problème des hiérarchies des valeurs, ce problème des choix que nous devons faire dans les technologies que nous utilisons ou non en fonction des performances qu'elles donnent, ou donc des transformations du vivant et non pas de la rétablissement de la nature. Et alors, à ce moment-là, est-ce que ça peut vraiment être traité par le principe de précaution ? Là, j'ai vraiment des doutes. Et la dialectique, si vous voulez, et c'est pour ça que le point où nous en sommes du principe de précaution pour moi, c'est qu'il est sorti, effectivement, il est difficilement mal applicable dans son propre domaine de compétences, mais alors il devient complètement inadéquat par rapport à ces questions-là. Et par rapport à ces questions-là, nous ne savons pas comment les traiter. Et nous ne savons pas comment les traiter collectivement. Et le caractère dérisoire de ce débat où donc se sont affrontés des anti-nanos avec des espèces de gentils du débat est complètement dérisoire. Mais là où le principe de précaution réapparaît, c'est qu'il est susceptible de donner à certains un avantage politique sur d'autres, alors qu'il n'est pas fondé ontologiquement.
Alors, Olivier Gadard, j'approuvais toute la première partie de ce que vous avez dit, peut-être pas moins sur la conclusion, à savoir que le principe de précaution a été inventé pour s'occuper de risques et qu'il n'a pas vocation à remplacer toute autre justification et tout autre élément du débat public sur la technique. Il a une ambition beaucoup bien plus limitée.
Mais les nanotechnologies présentent des risques, non ?
Elles présentent des risques et il y a d'autres dimensions qui ne relèvent pas de la catégorie des risques. Et absolument. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a que les risques qui peuvent justifier une intervention publique de régulation. Bien entendu que non.
Bien entendu.
La question qui est posée derrière ça, c'est dans quelles conditions quelque chose doit être interdit ? Alors, c'est vrai pour les OGM, c'est vrai pour les nanos, ça peut être vrai pour d'autres techniques à venir. Est-ce que atteinte, par exemple, aux croyances religieuses de tel ou tel groupe de la société suffit pour qu'on dise, bon, dans ce cas-là, on interdit parce qu'il y a atteinte? Bon.
Oui, mais est-ce que là, il y a une chance, simplement, pour les nanotechnologies, quelles que soient les valeurs, les principes invoqués, que certaines d'entre elles soient interdites? Est-ce qu'on n'a pas affaire à un mouvement, à une dynamique telle que, de toute façon, l'interdiction n'aura pas lieu et nous serons amenés à gérer les processus et peut-être à gérer leurs conséquences?
C'est-à-dire qu'on peut avoir peur d'une focalisation excessive sur le risque, la volonté d'avoir un risque zéro et donc une paralysie générale de l'innovation, en pensant que le principe de précaution serait à l'origine de tout ça, ce que je ne pense pas, s'il est appliqué selon les repères, hein, c'est défini. Mais il y a aussi une autre focalisation qui risque de tétaniser le débat public, c'est la focalisation sur la compétitivité, le fait de ne pas être en retard sur les autres, et qui ferait qu'on devrait accepter n'importe quoi en matière de développement technique, au nom de la compétition avec les autres puissances qui, de toute façon, le font, et donc ça n'a pas la peine que l'on fasse l'original en France.
Mais ceci ne fait que poser la question que j'essaye de suggérer depuis le début sur le problème de la démocratie technique. Donc, on a pu penser qu'avec le principe de précaution, on aurait un instrument de régulation. Eh bien, je considère que cet instrument apparaît comme inefficace et même dangereux, encore une fois, donc pour les aspects que je disais tout à l'heure d'éthique des sciences. Maintenant, nous nous trouvons privés de cet instrument, mais d'une certaine manière, je ne le regretterai pas nécessairement, mais nous sommes confrontés à ce problème de la démocratie des techniques dans un univers où nous avons privé la science de son pouvoir d'autorité. Nous avons de même coup privé l'État du pouvoir d'autorité qu'il légitimait de son rapport à la science, et où nous avons une communauté dispersée, et une communauté tellement dispersée qu'elle n'est plus capable de s'entendre, et comme on le voit dans le cadre de ce débat, peut-être de s'opposer violemment.
Moi, je rajouterais simplement, et actuellement, les procédures de débat sont devenues un instrument utilisé comme un boomerang, c'est-à-dire les pouvoirs publics en attendaient un effet de pacification de l'examen d'un certain nombre de dossiers, en prenant honnêtement en jeu, je dirais, la question de la démocratie. Et en fait, il y a des gens qui ne veulent pas de démocratie. Ils veulent simplement pas de ceci, pas de cela, pas d'OGM, pas de téléphonie mobile, quel que soit le débat, pas de nano, oui. Etc. Non.
Écoutez, nous en terminerons.
C'est un nouveau chapitre de la dialectique de la raison.
Bien. Alors nous terminerons et nous réfléchirons à ce nouveau chapitre. En tout cas, on peut le faire en lisant aussi le livre dirigé par François Eval, Au risque d'innover, les entreprises face aux principes de précaution, publié aux éditions Autrement. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre Quelles leçons tirées de la crise. Mes invités seront Jacques Julliard et Alain Minc. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration de Marie Dalquier et Didier Lagarde. Dans un instant, Jean-Noël Jeannonet.